SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Au sommaire, l'armée australienne devrait se doter de nouveaux véhicules de mobilité d'infanterie Bushmaster dans le cadre d'un contrat de 45 millions de dollars. Et en France, blocage sur le choix d'un candidat pour Matignon alors que la composition de la nouvelle assemblée se précise. Et aux États-Unis, des républicains choisissent Donald Trump comme leur candidat au présidentiel du mois de novembre prochain avec J.D. Vance comme co-listier. Quinze nouveaux blindés Bushmaster sont construits à Bendigo. C'est le constructeur de défense Thales qui a remporté ce contrat de 45 millions de dollars pour la construction de véhicules blindés à quatre roues motrices. Ces engins soutiendront le régiment d'artillerie mobile des forces de défense australiennes. Les Bushmaster se sont rendus célèbres et sont devenus le symbole de la résistance ukrainienne. L'Australie en ayant envoyé 120 à Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022. Le ministre de l'Industrie de la Défense, Pat Conroy, a déclaré que ces véhicules constituent un élément essentiel de la technologie de défense.
Bushmaster save lives. We've seen them save Australian soldiers' lives in the Afghanistan deployment. We've seen them save Ukrainian lives during the current conflict in Ukraine as a result of Vladimir Putin's unprincipled invasion of Ukraine.
Les quatre grandes banques australiennes sont accusées de ne pas avoir atteint leurs objectifs climatiques. Une récente étude a révélé que les quatre plus grandes banques du pays ont prêté 3,6 milliards de dollars à des projets de combustibles fossiles l'année dernière. Le rapport Banking Climate Failure indique que la Commonwealth, l'ANZ, la NAB et Westpac ont prêté un total de 61 milliards de dollars à des projets liés aux combustibles fossiles depuis l'accord de Paris sur le climat. Et sans surprise, le Parti républicain a choisi Donald Trump pour être son candidat à la présidentielle du mois de novembre prochain. Un peu plus tôt, Donald Trump avait désigné son colistier, J.D. Vance, un ex-critique devenu son plus fervent défenseur. Portrait de J.D. Vance avec Elio Prachet pour RFI.
Lors de la campagne pour la présidentielle de 2016, James David Vance était allé jusqu'à comparer Donald Trump à Adolf Hitler. Il décrivait alors le milliardaire américain comme un idiot qui ne devrait pas gouverner le pays. Natif de Middleton, dans l'Ohio, J.D. Vance était alors connu pour un livre, ses mémoires, baptisé Hillbilly Elegy. Il y raconte une enfance dans une Amérique blanche, ouvrière, en proie au déclassement. Devenu avocat d'affaires après des études à Yale, puis investisseur dans la tech à San Francisco, certains le voient alors comme l'incarnation du rêve américain. Mais au fil des ans, l'ambitieux Vance change son fusil d'épaule et vire à droite toute jusqu'à obtenir le soutien de Donald Trump lors des sénatoriales de 2022. Isolationnisme, protectionnisme économique, discours anti-avortement et anti-immigration, voire adepte de la théorie du grand remplacement, le sénateur Vance finit par totalement embrasser les idées du candidat Trump au point d'être désormais mais considéré comme l'un de ses plus fidèles soutiens. Le camp démocrate, lui, le considère tantôt comme un opportuniste, tantôt comme une copie conforme de Donald Trump, selon les mots de Joe Biden lui-même qui commentait lundi cette nomination.
Pour Antoine Yoshinaka, professeur des sciences politiques à l'Université de New York, le choix de J.D. Vance est avant tout le choix de la loyauté.
J.D. Vance, donc le sénateur de l'Ohio, c'est un des plus grands supporters de Donald Trump au Sénat américain. Il a été élu en 2022, donc il n'a pas une longue carrière en politique, mais Donald Trump l'avait appuyé formellement en 2022. Ça lui avait permis de remporter la primaire républicaine qui était très, très, très contestée. Et une fois qu'il est arrivé au Sénat, il s'est clairement casé, si vous voulez, du côté de la faction pro-Trump. Donc, par exemple, sur des enjeux comme l'Ukraine, il s'oppose à des aides additionnelles à l'Ukraine. Et c'est une vision plus isolationniste en termes de relations internationales, ce qui cadre très bien avec la position de Donald Trump. L'intention, là, il voulait vraiment une volonté de s'assurer d'avoir comme colistier quelqu'un qui serait entièrement loyal envers lui.
C'était le professeur Antoine Yoshinaka de l'Université de New York au micro de nos confrères de RFI. En France, arrivé en tête des législatives, le nouveau Front populaire n'a toujours pas trouvé un accord sur une équipe gouvernementale plus d'une semaine après le scrutin. La France insoumise a fermé hier la porte à une candidature issue de la société civile pour être premier ministre d'un gouvernement de gauche, une hypothèse qui avait été avancée par les socialistes, puis les communistes et les écologistes au motif qu'elle manquerait de garanties pour la mise en œuvre du programme du nouveau Front populaire. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ILAB, qualifie cette semaine de semaine décisive pour la composition de l'Assemblée nationale.
C'est une semaine où chacun va pouvoir compter ses forces, et notamment effectivement l'élection du président de l'Assemblée, qui donnera lieu à un premier test grandeur nature de la solidité de l'union ou pas des différentes forces politiques. Et notamment à gauche, on verra s'il y a un accord pour présenter une candidature commune. Mais chacun va compter ses forces et on y verra peut-être un peu plus clair, espérons-le, en fin de semaine.
Et au centre-droite, Emmanuel Macron pense qu'il peut lui aussi mettre en place une coalition. Mais le camp présidentiel, lui aussi, est en proie à des divisions internes.
Le camp présidentiel a subi une sévère défaite et comme toujours dans ce cas-là, le camp qui subit la défaite est exposé à des vents contraires, d'autant que le président de la République n'a plus l'autorité nécessaire puisqu'il ne se représente pas et que donc il y a autour de lui toute une série, j'allais dire, d'affranchis, pour reprendre un film connu, d'affranchis qui se disent « moi j'avance, Gabriel Attal a avancé contrairement peut-être aux vœux de l'Élysée sur la présidence du groupe Renaissance, Édouard Philippe a pris ses distances, Bruno Le Maire également, et donc on ne sait plus qui détient l'autorité naturelle au sein du camp qui était la majorité. Maintenant, le président de la République va être quand même à un moment obligé de prendre une décision. Va-t-il appeler pour un premier tour de piste, j'allais dire, un premier ministre issu de la gauche, quitte à ce que ce gouvernement de gauche soit censuré rapidement pour qu'après il puisse tenter l'opération d'une coalition, ou va-t-il directement passer par l'hypothèse coalition, ce qui ne manquerait pas de provoquer la colère de la gauche.
Et c'était Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ILAB, au micro de RFI. Et au Rwanda, la population a été appelée à voter hier pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un quatrième mandat de 5 ans. Seuls deux autres candidats ont été autorisés à se présenter face à lui, le député du Parti Vert Démocratique Franck Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana, alors que les candidats plus critiques ont été écartés. Les premiers résultats donnent Paul Kagame très largement vainqueur. Lisa Fabien, RFI.
Au moment du dépouillement, un seul nom résonnait dans cette salle de classe transformée en bureau de vote. Kagame Paul. Le président sortant écrase une fois encore ses opposants triés sur le volet. Les principales figures de l'opposition, les voix les plus critiques, ayant été disqualifiées en amont de l'élection. Pourtant, la jeune Sifa est allée voter avec fierté ce lundi, elle qui n'a connu qu'un seul dirigeant à la tête de son pays.
J'étais très curieuse de participer à une élection. C'est pour ça que je me suis levée très tôt ce matin. Ça s'est très bien passé, il y a une forte participation et le résultat, eh bien, c'est comme s'il était déjà connu, puisque nous savons ce que nous voulons.
Durant sa campagne, Paul Kagame s'est toujours montré confiant, présentant cette nouvelle élection comme une formalité, un plébiscite de son action à la tête du Rwanda. Après une réforme constitutionnelle adoptée en 2015, Paul Kagame peut encore diriger le Rwanda pendant deux mandats de 5 ans jusqu'en 2034.
L'Union européenne a annoncé des sanctions contre 5 individus et 3 entités israéliennes pour des violations graves et systématiques des droits de l'homme contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La liste comprend Tzav 9, un groupe qui, selon l'UE, bloque régulièrement les camions d'aide humanitaire livrant de la nourriture, de l'eau et du carburant à la bande de Gaza. Sur la liste figure également Baruch Marzel, qui, selon l'Union européenne, appelait ouvertement au nettoyage ethnique des Palestiniens. Il n'y a aucun commentaire immédiat de la part des personnes sanctionnées. Écoutons des propos tenus par Baruch Marzel en 2019.
Everything we say is written in the Bible, and that's a promise God gave Abraham that the land will be for his descendants, for the Jewish people.
Les sanctions de l'UE contre ces personnes et organisations israéliennes comprennent notamment le gel des avoirs et une interdiction de voyager vers les pays de l'Union européenne. Et les Nations unies ont annoncé hier qu'elles commenceraient à amener davantage de véhicules blindés et d'équipements de protection individuelle à Gaza pour leurs opérations d'aide humanitaire. Cette décision a été prise à la suite d'une lettre de l'ONU envoyée à Israël le mois dernier concernant la sûreté et la sécurité dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas. L'ONU a été confrontée à d'importants défis pour acheminer l'aide à la bande de Gaza. Il faut signaler qu'Israël inspecte et approuve tous les camions entrant dans l'enclave. La situation a été exacerbée par l'anarchie totale dans ce morceau de territoire de 2,3 millions d'habitants où le risque de famine est élevé selon l'Observatoire mondial de la faim. Scott Anderson, directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza, affirme que l'équipement supplémentaire pourrait arriver sur place dès ce mardi.
Armored vehicles are coming in. Some will start coming in tomorrow and through the rest of the month. Personal protective equipment is also coming in. Again, some starting tomorrow, and then others will come in later this month. And some communications equipment has also been approved. There are some communications equipment that we're still under discussion around, but I have seen what I would consider a positive response, which I said is very welcome, and we're thankful for that.
Et pour conclure l'actualité de ce mardi, un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays. Perth, temps ensoleillé, 22 degrés. Adélaïde, pluie intermittente, 14. Melbourne, la pluie, donc un temps de pluie, un temps pluvieux qui s'atténuera et se transformera en averse avec un maximum de 14 degrés. Hobart averse 13 degrés, Canberra averse également et un top de 11 degrés, Wollongong pluie intermittente 14, même condition à Sydney avec un maximum de 15 degrés. On signale des tempêtes orageuses à Newcastle avec 15 degrés, partiellement couvert à Brisbane avec 19 degrés, averse à Cairns avec un maximum de 27 degrés et temps ensoleillé à Darwin avec un maximum de 32 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.